RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot.
Invité d'RTL Midi, Jean-Christophe Picard, le président d'Anticor, association de lutte contre la corruption. Bonjour Jean-Christophe Picard.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous après ces révélations donc de Quotidien, l'émission de TMC sur les emplois à l'Assemblée dont auraient bénéficié les deux filles de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur. On le rappelle, 24 CDD entre 2009 et 2016, alors qu'il était député, pour un montant de 55 000 euros. Et une précision importante, l'aîné n'avait que 15 ans pour son premier contrat. Lors d'un autre de ses CDD, elle était en même temps en stage en Belgique, ce qui évidemment déclenche le soupçon. Sa sœur aurait également officiellement travaillé tout en préparant un concours de grande école. Comment vous réagissez tout d'abord, Jean-Christophe Picard, aujourd'hui, ce matin, en apprenant cette information ?
Écoutez, comme lorsqu'on a appris l'affaire Fillon, hein, je veux dire, c'est la même chose. Il y a des forts soupçons d'emploi fictif, puisque, bon, outre que les filles étaient mineures, elles étaient ailleurs, elles faisaient d'autres activités. On parle d'un travail qu'elles auraient fait à distance, donc tout ça est très flou et évidemment, il y a des forts soupçons d'emploi fictif. Et si c'est pas un emploi fictif, c'est un emploi de complaisance, parce qu'il y a quand même peu de chances qu'on puisse se faire recruter à l'Assemblée nationale tout en continuant à aller à l'école par ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est pour nous, ça, c'est à la limite de la prise illégale d'intérêt, hein, lorsque même si c'est une pratique répandue parmi les parlementaires.
Parce qu'on a 98 députés aujourd'hui sur 577 emploient leurs proches. Ça veut dire presque 1 sur 5, 1 sur 6, quoi.
Voilà, c'est assez répandu, mais pour nous, c'est la limite de la prise illégale d'intérêt. Et il faudrait, comme on le fait au niveau européen, purement y interdire cette pratique de recrutement de proches, parce que ça génère l'état d'abus. On ne peut pas contrôler la réalité du travail, on ne peut pas contrôler les salaires, on ne contrôle pas le niveau de recrutement.
Alors justement, est-ce qu'il faudrait vérifier pour tous les parlementaires qui ont employé de la famille, que ce soit un époux, une épouse ou un enfant, est-ce qu'il faudrait vérifier pour tout cela qu'il ne s'agissait pas d'emploi fictif ? On sait, hein, ils l'ont tous déclaré, donc ça peut se faire, c'est un gros boulot, mais ça peut se faire.
Écoutez, c'est l'argent public, donc déjà, c'est un peu étonnant que le contrôle ne soit pas fait en permanence. On voit bien qu'au niveau de l'Europe, ils contrôlent ce que devient l'argent qui est payé, qui est utilisé pour payer les assistants parlementaires. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Marine Le Pen a été mise en cause. Pourquoi est-ce que c'est contrôlé au niveau européen et pourquoi en France, on donne une enveloppe à un parlementaire, on lui dit de faire ce qu'il veut avec, sans contrôle. C'est absolument anormal que de l'argent public ne soit pas contrôlé.
Le parquet national financier s'était saisi de l'affaire Fillon au lendemain de la parution des informations dans le Canard enchaîné. Est-ce qu'il doit être aussi rapide pour Bruno Le Roux, selon vous, et donc se saisir dès aujourd'hui ?
Oui, enfin, il a le droit de réfléchir, mais je pense qu'il fera comme pour l'affaire Fillon. Il va ouvrir une enquête, puisque les éléments sont quand même assez... assez probant, hein, je veux dire, le cumul d'activités, etc. Donc je pense qu'il va ouvrir prochainement une enquête. Après, bon, il a le droit de réfléchir pendant un ou deux jours, on ne va pas dire que c'est trop long.
Il peut rester au gouvernement ou pas, d'après vous, Bruno Le Roux ?
Ben, c'est un peu compliqué, puisque s'il y a une enquête ouverte, la police sera sous sa responsabilité. Donc, bon, dans un pays scandinave, n'importe qui aurait fait la même chose aurait démissionné depuis longtemps. En France,
On disait la même chose de François Fillon, et il est toujours candidat à l'élection présidentielle.
Voilà. Donc en France, on ne démissionne pas, on est candidat à la présidentielle. Donc bon, mais oui, c'est très choquant, surtout à cette place-là, puisqu'encore une fois, c'est lui qui a l'autorité sur la police. Donc normalement, vu les éléments, sauf à apporter des explications éclairantes, ce qu'il n'a pas encore fait, oui, il serait quand même bienvenu qu'il démissionne.
Un dernier mot, on aimerait avoir le président d'Anticor sur finalement tout ce que ça risque de générer dans l'esprit des électeurs, c'est-à-dire ce sentiment de tous pourris, la droite comme la gauche. Ça, c'est un sentiment dangereux, non ?
Oui, c'est dangereux, mais ça se bat sur certaines réalités. Il faut effectivement que les électeurs réclament plus d'éthique, réclament des mesures pour obliger les élus à être honnêtes. On voit bien qu'on a un dispositif aujourd'hui clairement insuffisant lorsqu'on s'aperçoit qu'on peut recruter les membres de sa famille sans contrôle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un manque de transparence, un manque de contrôle et certainement aussi un manque de sanctions. Donc c'est aux électeurs de réclamer tout ça, hein. C'est le bon moment. Bientôt, il y a les élections qui arrivent et c'est le moment où les électeurs sont entendus.
Voilà, c'est le moment aux électeurs de se faire entendre. Merci Jean-Christophe Picard, président de l'association de lutte contre la corruption Anticor.
3210, prenez la parole sur RTL.
Et c'est Eric qui nous appelle de Metz qui prend la parole. Bonjour Eric.
Bonjour Christelle, bonjour Vincent.
Bonjour Eric.
Vous avez suivi le débat hier soir sur TF1 comme 9 800 000 personnes.
Oui, bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout, hein, parce que ça commence à être un
ça
peu long.
Ça finit tard.
Oui, c'est vrai. Mais je voulais revenir sur ce que Vincent disait tout à l'heure, à savoir que c'est Mélenchon qui paraissait s'en être sorti le mieux.
Alors, je n'ai fait juste une précision que répéter ce qu'on trouve ce matin dans la presse et les réseaux sociaux. Mmh.
Absolument, voilà. Absolument. Mmh. Et moi, ça ne me paraît pas normal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, Mélenchon, il n'a quasiment pas été attaqué durant ce débat, parce que c'est purement stratégique. Mmh. On ne va pas attaquer quelqu'un qui représente que 10-11% éventuellement des votes.
Ouais. Quelqu'un qui n'est pas dangereux, finalement.
C'est ça. Ceux qui ont été attaqués sont ceux qui étaient effectivement les plus éligibles, à savoir Le Pen, Macron ou Fillon. Donc c'était vraiment une cible à abattre. Et c'est pour ça que Mélenchon donne l'impression de s'en être mieux tiré, parce que finalement, il n'était absolument pas attaqué sur ses idées, sur son projet, qui finalement n'intéresse pas grand monde.
Donc pour vous, qui s'en est le mieux tiré finalement ?
Et qui
peut peser sur le résultat
moi,
final ?
J'étais surpris par Macron. J'ai trouvé que malgré son jeune âge, il a une certaine maturité quand même dans le débat. Mmh. J'ai aussi trouvé que Marine Le Pen s'en tirait bien, beaucoup attaquée. Mmh. Par contre, effectivement, celui, à mon avis, qui s'en tire le moins bien, c'est plutôt M. Hamon.
Eh bien voilà, c'est dit, vous l'avez dit, Eric. On aura l'occasion d'y revenir, hein, de toute façon, d'abord quand vous voulez, en faisant le 32-10. Et puis tout à l'heure, avec vous tous au 32-10 et la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, même si Eric a trouvé que Jean-Luc Mélenchon s'en était bien sorti parce que personne ne l'avait attaqué, ben on demandera tout à l'heure à sa porte-parole ce qu'elle en pense. 32-10.
RTL Midi.